assassinés 100 fois. Ils ont brûlé, ils ont décapité plus de 1300 Israéliens, majorité civile. Et je vais vous expliquer la magnitude de ce nombre. Pendant la guerre de 6 jours, il y a eu au total 650 soldats morts. Pendant la guerre de Yom Kippour, en 1973, il y a eu 2600 soldats tués. Mais ici, dans 24 heures, on a 1300 tués, assassinés. Pendant toute la deuxième intifada, de 2000 à 2005, il y a eu 1000 civils morts à travers les attaques suicides du Hamas et aussi du Fatah. Et vous voyez la magnitude de ce massacre d'Israéliens qui ressemble beaucoup au pogrom dans le 19e siècle, ou même, si vous voulez, ce que les nazis ont fait, et surtout, on peut le comparer à ce que ISIS ou Daesh a fait en Syrie et en Irak. Mmh. Parce que si vous vous rappelez, ils ont décapité, ils ont brûlé des gens.
Alors, est-ce que...
C'est ça ce qui a provoqué une énorme rage dans la population israélienne, et clairement, est influencé psychologiquement, mais aussi socialement et politiquement par ce massacre. Et ça, c'est ce que les peuples israéliens sont maintenant.
Est-ce que on a vu un peu le débat qui a suivi justement cette attaque meurtrière? Pourquoi ça a surpris beaucoup de personnes? Vous travaillez un peu sur le contre-terrorisme. Donnez-nous un peu votre explication. Qu'est-ce qui n'a pas marché, j'ai envie de dire?
Si vous voulez, ça, justement le 6 octobre, c'est 50 ans, c'est la commémoration de la guerre du Yom Kippour, qui aussi a commencé avec une grande surprise stratégique, encore qu'il y avait suffisamment d'informations pour les services d'intelligence. Ici, il semble que c'est la même chose, une sorte de conception des services d'information qui n'ont pas pris en considération les signes qui étaient sur le terrain, et même on dit que les Égyptiens, au plus haut niveau, ont passé des informations quelques jours avant au Premier ministre Netanyahu. Donc il y a quelque chose de très étrange ici. Ensuite, il y a eu une surprise tactique. Comment ils sont arrivés à faire ce succès? C'est qu'ils ont utilisé des moyens très simples, des drones commerciaux. Mais ces drones ont détruit en quelques minutes toutes les antennes de sensors, des caméras et des voies de communication des autorités militaires à la frontière. Et donc, ils ont simplement n'ont pas permis aux soldats et aux officiers de voir ce qui se passe en première ligne. Et justement, je crois que c'est l'influence de la technologie, c'est-à-dire il y a eu trop de technologie, mais avec des moyens beaucoup plus simples, on peut, hybride si vous voulez, on peut arriver à ce succès. Le problème, c'est pas seulement, bon, j'ai dit, le succès militaire, disons, local. Le problème, c'est l'effet stratégique de cette manie furieuse, si vous voulez, criminelle, de faire peur, exactement comme ISIS, de faire peur à toute la population israélienne.
D'accord. Alors, Calvin Dark, vous êtes en ce moment au Maroc, hein, qui est un pays qui a normalisé ses relations diplomatiques avec Israël, mais dont une bonne partie de l'opinion publique est quand même acquise à la cause palestinienne. Comment ce dernier regain de tension est perçu sur place? Vous pensez que l'attaque du Hamas aide ou un peu cause un préjudice à la cause palestinienne, d'après ce que vous avez observé sur place?
Oui, oui, oui. Et en fait, comme vous avez dit, je suis ici à Rabat, au Maroc. Mais juste avant l'éclatement de la violence de Hamas, j'étais au Caire. Et en fait, j'étais à Alexandria, le lieu de cet événement avec la police égyptienne. Et le soir avant que je suis venu ici au Maroc, j'ai eu un dîner avec mes amis égyptiens. Et ils m'ont dit quelque chose de très intéressant. Ils m'ont parlé beaucoup de ces accords Abraham et ils ont dit qu'il y a un décalage entre les relations des gouvernements arabes avec Israël et la perception et les sentiments des peuples arabes. C'est-à-dire, pour eux, il n'y a pas suffisant de mécanismes dans ces accords Abraham pour résoudre la question palestinienne. Et alors, maintenant, en Europe, je me sens que c'est presque le même cas. Qu'on comprend qu'il y a beaucoup de bénéfices des accords Abraham pour le Maroc et pour Israël, mais la question palestinienne est primordiale. On sait que le roi Mohamed VI du Maroc, il est président de la comité Al-Quds. Alors, il a un rôle aussi au centre de cette résolution qu'on cherche pour la question palestinienne. Alors, je crois que pour ça, ça va être très difficile d'avancer ce projet des accords Abraham, surtout pour le court terme.
Alors, elle est clairement dans le cadre justement de ces accords d'Abraham. Israël avait établi des relations diplomatiques avec des pays importants de la région, les Émirats arabes unis, Bahreïn. On parle même d'un rapprochement avec l'Arabie saoudite. L'attaque du 7 octobre et la riposte d'Israël, tout cela, est-ce que ça remet en cause ce processus?
Justement, l'objectif principal de cette date spécifique, cette semaine, si vous voulez, de l'attaque du Hamas, est combiné avec l'Iran, qui a payé beaucoup de matériel de guerre du Hamas, qui a contrebandé beaucoup de missiles dans le temps vers le Gaza, qui aussi a entraîné les forces du Hamas au Liban et en Iran même. Et justement, à cause de la normalisation possible de relations entre l'Arabie saoudite et Israël. Et je vais expliquer. Il y a quelques mois, il y a eu un accord diplomatique entre l'Iran et l'Arabie saoudite sous la l'égide de la Chine de faire la paix et de normaliser les relations. La normalisation de cette relation avec Israël implique, du point de vue de l'Arabie saoudite, une importante stratégie, parce qu'elle implique un accord de défense, une alliance, comme avec l'OTAN, entre l'Arabie saoudite et les États-Unis. L'acceptation de bâtir un projet nucléaire sur le territoire saoudien et aussi de normaliser les relations avec Israël, ce qui implique des relations non seulement économiques et politiques, mais aussi technologiques importantes qui peuvent aider l'Arabie saoudite contre l'Iran. Justement, l'Iran voit cela comme un danger immédiat à la stratégie qui est la stratégie hégémonique qui avait réussi jusque maintenant, même avec cette action de Hamas, on peut dire que ça a réussi. La question est ce qui va continuer. Parce que du point de vue d'Israël, on ne peut pas résister, on ne peut pas survivre dans cet environ régional sans détruire finalement le pouvoir militaire du Hamas qui aussi oppresse le peuple gazien. Parce que le peuple en Gaza n'est pas libre. Il n'a pas eu d'élection depuis 2006. Et aussi, comme il y a eu des tentatives de faire ce qui s'était passé en Égypte après la chute du gouvernement de frères musulmans, le Hamas a arrêté ou a assassiné les militants qui n'étaient pas d'accord avec le Hamas.
Alors, si je vous comprends bien, il y avait une volonté de stopper ce processus de normalisation à travers cette attaque. C'est un peu ce que vous voulez dire ici?
Oui, bien sûr, ça, comme je dis, c'est cet objectif. Le deuxième objectif, c'était dans le cadre de la lutte entre le Hamas et le gouvernement du président Abu Mazen dans l'autorité palestinienne, qui est déjà affaiblie pendant les dernières deux années, surtout depuis mai 2021, quand le Hamas a commencé à se présenter sous le narratif de défenseur de la mosquée Al-Aqsa et de Jérusalem, et en fait, de nouveau, utiliser les missiles et le terrorisme, et cela met en danger l'équilibre et même la survivance du gouvernement du président Abu Mazen, qui est un gouvernement séculaire du Fatah, et donc ennemi juré du Hamas. Je dois aussi expliquer que le Hamas a pris le pouvoir à Gaza en 2007 dans un coup militaire pendant lequel 200 membres de forces de sécurité du Fatah la police officielle, ont été assassinés et jetés du plus grand édifice à l'époque de Gaza. Donc, le genre, si vous voulez, de ISIS ou de Daesh a été utilisé aussi contre les Palestiniens.
Alors, Calvin, les États-Unis se sont fortement mobilisés aux côtés d'Israël, leur allié. Jusqu'où pourrait aller ce soutien de Washington?
Oui, j'imagine qu'il n'y a pas vraiment une limite de comment on peut mobiliser en faveur d'Israël de la part du gouvernement américain, parce que par exemple, on a vu une mobilisation très profonde pour l'Ukraine, mais c'est toute une autre chose pour l'Israël. Et la preuve de ça, c'est que le secrétaire d'État Blinken il est déjà sur place pour démontrer la solidarité des États-Unis. Et on a vu aussi le président Biden dans son discours avec des mots très, très forts et clairs, parce que, bon, pour les États-Unis, l'Israël, c'est un allié de longue date, un allié très fort dans la région, mais aussi nous sommes en pleine campagne présidentielle pour les élections de novembre 2024. Alors, c'est comme les candidats républicains et le président Biden sont en train de vraiment démontrer qu'ils fassent de leur mieux pour soutenir Israël, d'être engagé. Et je crois que ça va vraiment continuer, surtout pendant les élections.
Calvin, avant d'aller aux commentaires Facebook, le secrétaire d'État Anthony Blinken est en Israël. Il va ensuite se rendre en Jordanie. Comment est-ce que la diplomatie américaine peut aussi avoir la majorité des pays arabes à ses côtés pour essayer de trouver une solution ici?
Je crois que ça va être très difficile si Blinken n'apporte pas un message très fort et clair et un plan stratégique pour comment résoudre la question palestinienne. S'il continue avec la phrase fameuse, une solution qui correspond aux aspirations du peuple palestinien, mais son détail sont des précisions de comment est-ce qu'on peut vraiment résoudre la question, ça va être très difficile d'avoir le vrai soutien des autres pays arabes autour d'Israël dans la région.
D'accord. Alors, vous pourrez y répondre quand on revient tout à l'heure, M. Carmon. On peut aller rapidement aux commentaires Facebook. Quelques auditeurs et téléspectateurs de La Voix de l'Amérique. Nous avons Junior Bompongo qui est à Kinshasa et qui nous dit que l'offensive du Hamas en territoire israélien n'est pas une surprise, car les tensions ont augmenté ces dernières semaines, notamment en raison de l'éviction de familles palestiniennes du quartier de Sheikh Jarrah à Jérusalem Est pour mettre fin au conflit israélo-palestinien. Une solution politique doit être trouvée. Archiduc Théodore est à N'Djamena au Tchad. Il écrit « Le Hamas, abandonné par la communauté internationale, a choisi de s'exprimer par la violence qui n'a pas sa place dans toute recherche de paix dans ce genre. » Et puis Charles Bazema Ouagadougou, il dit « Cette crise nous montre une fois de plus que le monde a lamentablement échoué à résoudre les crises. » Voilà, merci de rester fidèle à VOA Afrique, Washington, le forum qui revient après une courte pause.
Le Sahel, une région à la croisée des chemins. Focus Sahel, votre nouvelle émission sur VOA Afrique.
Crise sécuritaire, montée de l'extrémisme, déplacement de populations, influence étrangère. VOA Afrique braque ses projecteurs sur la bande sahélo-saharienne pour vous aider à comprendre les enjeux qui sévissent dans cette région et les événements qui rythment la vie de ces pays.
Retrouvez nos équipes à Washington et nos correspondants sur le terrain pour des reportages, des analyses et des interviews.
Pour tout comprendre sur le Sahel, rendez-vous tous les mardis à 18h temps universel sur VOA Afrique, voafrique.com et toutes nos plateformes digitales.
Heureux de vous retrouver pour la seconde partie de Washington Forum. Et je rappelle nos invités, Eli Carmon, chercheur spécialiste des questions de sécurité et de terrorisme, qui nous rejoint de Herzliya en Israël. Et puis à Rabah Calvin Dark, analyste politique et cofondateur de RC Communication. Et je signale qu'on devrait avoir de Tunis Frida Dahmani, qui est journaliste basée donc en Tunisie et couvre le Moyen-Orient, où malheureusement nous ne l'aurons pas dans cette émission. Alors nous faisons rapidement un tour en Afrique où la tension entre Israël et le Hamas ne laisse pas les opinions indifférentes. Suivons ces quelques réactions recueillies dans la capitale guinéenne, Conakry.
Il condamne avec la dernière énergie pour que Israël doit se défendre. Ils doivent finir avec le Hamas. Ils doivent éradiquer le Hamas. Parce que c'est trop, c'est trop.
La Palestine est souvent soutenue par le monde arabe, bien sûr. Et l'Israël aussi est soutenu par les États-Unis. Et une fois que les deux se font des conflits, ça pourrait dégénérer des préjudices dans le monde entier.
Moi, je comprends un peu la motivation du Hamas qui défend la cause palestinienne. Aujourd'hui, vous vous rendez compte que la Palestine, c'est, disons, une nation qui est marginalisée, qui est colonisée en quelque sorte par Israël. Et les enfants de ce pays, la population de ce pays, aujourd'hui, a soif de justice. La justice, c'est d'être un État indépendant vis-à-vis d'Israël. Et cela n'est pas encore acquis.
Alors, des réactions assez partagées en Guinée. Alors, Eli Carmon, je crois que vous vouliez réagir par rapport à la position des pays arabes et comment ces pays peuvent aider un peu à la résolution de la question. Est-ce que, justement, sur cette question des deux États, c'est une question qui est toujours sur la table?
Avant de répondre à la deuxième question, je réponds à la première. Voilà le contexte régional et le contexte global. En ce qui concerne les pays arabes, les États, les Émirats Unis, et le Bahreïn, et le Maroc et même le Soudan ont normalisé les relations avec Israël sans tenir compte du problème palestinien. Du point de vue de l'Arabie Saoudite, c'est beaucoup plus difficile. Mais vous devez savoir que le Hamas, c'est les frères musulmans, et les frères musulmans sont interdits en Arabie Saoudite. C'est-à-dire qu'ils sont considérés des ennemis du régime de l'Arabie Saoudite. Maintenant, les États-Unis soutiennent vraiment très fort Israël, et surtout pour tenter de dissuader l'Iran et le Hezbollah d'intervenir dans cette guerre, qui est une guerre pour le moment localisée, et donc tenir avantage dans la lutte de l'axe de la résistance. Les États-Unis ne le font pas seulement à cause des intérêts du Parti démocratique ou des républicains. C'est l'intérêt des États-Unis. Parce que n'oublions pas qu'il y a une guerre en Ukraine, il y a le soutien de la Russie à l'Iran et le soutien militaire de l'Iran à la Russie avec des drones et avec même des missiles. Il y a la Chine qui a été le patron de cette alliance, cette ouverture diplomatique à l'Arabie Saoudite et l'Iran. Donc il y a, sur le plan global, des intérêts américains très importants, surtout aussi les prix du pétrole, si vous voulez, entre l'Occident mené par les États-Unis et les intérêts de la Russie et de la Chine. Et donc, ce conflit est vraiment au plan local entre Israël et le Hamas, entre le Hamas et la volonté palestinienne. Sur le plan régional, c'est l'Arabie Saoudite et les pays du Golfe, et même l'Égypte et l'Iran, et aussi dans le cadre global.
D'accord. Monsieur, rapidement sur la question des deux États, avant de donner la parole à Calvin.
Malheureusement, moi je soutiens cette solution comme l'unique solution. Et il n'est pas possible, justement, parce que le Hamas ne veut pas faire la paix dans aucune cause. Il y a déjà 15 ans que chaque 2-3 ans, il mène une guerre locale, avec une destruction massive de l'infrastructure au Gaza. Ils reçoivent de l'argent pour reconstruction et ils commencent de nouveau. Où est l'intérêt maintenant du Hamas? Et ils veulent détruire l'autonomie palestinienne, qui est le seul élément modéré qui encore peut négocier avec Israël. D'accord. Donc si Israël réussit à détruire le Hamas, le pouvoir militaire, il peut aider l'autorité palestinienne à revenir contrôler le Gaza et peut-être à ce moment-là commencer une négociation sérieuse pour les deux États.
Calvin, la question des deux États, il faut dire que même des pays quand même qui ont condamné l'attaque du Hamas continuent d'évoquer cette question des deux États. Pour vous, c'est mort ou il y a encore une chance?
Il faut qu'il y ait une chance parce que une solution sans deux États, je ne crois pas que ça c'est faisable. Mais je crois aussi que pour maintenant, ça va être très très difficile parce que surtout aux États-Unis, je crois que le problème, c'est qu'il faut une distinction entre le groupe Hamas et le peuple palestinien. Et malheureusement, beaucoup d'Américains ne font pas cette distinction. Et c'est pour ça que ça va être difficile de vraiment mobiliser l'opinion publique américaine pour soutenir cette solution de deux États pour les Palestiniens si les Américains perçoivent que les Palestiniens et le mouvement Hamas sont les mêmes choses. Ce n'est pas le cas, mais en fait, c'est la perception de beaucoup d'Américains.
Justement, Calvin, avant de donner la parole à Elie sur ces questions de l'autorité palestinienne, on n'en parle pas beaucoup. L'autorité palestinienne dans tout ça, elle a encore un rôle à jouer pour vous?
Bien sûr.
Calvin d'abord. Calvin d'abord.
On est arrivé à cette situation parce que le gouvernement de M. Netanyahu a préféré utiliser le camion. Pardon?
Allez, je voulais d'abord que Calvin réagisse à ça et je vous donne la parole, Elie.
D'accord. Oui. Je dis qu'il faut qu'il joue ce rôle parce qu'en fait, c'est impossible pour le groupe Hamas. Et aussi, il faut une partie prenante confiable avec les États-Unis. Et dans cette vide, ça va être Mabas. Mais ça va être difficile aussi s'il ne fait pas la distinction pour les Américains des différences entre ses objectifs, les objectifs du peuple palestinien et cet éclatement de violence de la part de Hamas. Il faut que les Américains comprennent cette distinction et après ça, on peut avancer la question des solutions de deux États.
D'accord. Elie Carmon, l'autorité palestinienne dans tout ça?
Il faut dire clairement que l'administration Biden soutient fortement la solution des deux pays,
des deux États.
Israéliens et palestiniens. C'est ça un des objectifs de la politique américaine. Mais maintenant, ce sera beaucoup plus difficile. Mais comme je dis, le problème de l'autorité palestinienne, c'est sa faiblesse. Et pendant ces dernières années, encore plus depuis que Abu Mazen a annulé les élections de mai 2021, a provoqué la réaction du Hamas à cette époque, en 2021, et aussi le terrorisme que Hamas, le djihad islamique, donc, affaiblir Abu Mazen tant qu'il n'y a pas cette tranquillisation, si vous voulez, dans la Cisjordanie et que le Hamas n'est pas finalement neutralisé, la situation sera toujours instable. Je crois maintenant que même le gouvernement de Netanyahu avait compris cela dernièrement et avait commencé à coordonner ou à coopérer avec Abu Mazen justement pour tenter de tranquilliser sur le nord de la Cisjordanie et donc arriver à une certaine possibilité de négociation.
Merci beaucoup. Alors nous allons continuer à suivre la situation dans la région au fin de ce Washington Forum. Merci à nos invités et à vous qui nous avez suivis à travers nos télépartenaires sur le continent, sur notre site voafrique.com et sur notre page Facebook. Merci à toute l'équipe de production. À très bientôt. Au revoir.